ce jour dédié pour la réussite de Eliaou ben Myriam. Alors, hier soir à cette heure-ci, on a appris que les trois adolescents qui ont été kidnappés, en fait, ont été tués quelques minutes après leur enlèvement. Et beaucoup posent de questions. Beaucoup de personnes posent beaucoup de questions. D'abord, comment se fait-il que des étudiants de yeshivot, gens religieux, donc aimés de Dieu, sont tués aussi sauvagement? Deuxième question qu'on m'a posée, les grands rabbinim qui ont Ruach HaKodesh, Rabbi David Abouchatzera, Rabbi Chaim Kanevski, qui ont demandé à Israël de faire beaucoup de prières, de mettre les bougies plus tôt, etc. Alors comment ça se fait qu'ils ont Ruach HaKodesh, ils ne savaient pas qu'ils étaient morts? Il peut te dire à toi, quel est ton futur, il ne connaît pas le présent. On demande bracha à quelqu'un, il sait exactement ce qui se passe, vivant ou mort. Troisièmement, on pose la question aussi, pourquoi l'armée ne venge-t-elle pas leur sang de façon radicale, comme ils font en Irak ou en Syrie, comme ça. Est-ce qu'on peut le ventilateur, parce que je trouve qu'on va avoir un peu trop chaud. Non, c'est trop fort, excuse-moi. Voilà, ouais, sauf pour vous, parce que... Ok.
Je peux rajouter une question?
Oui.
Est-ce que les tfilotes de tous les gens qui vont faire, ont servi à quelque chose, ou c'est juste...
Est-ce que les prières, toutes les prières que tout le monde a faites, donc ça ne servait à rien, point d'interrogation? Quatre questions. D'autres questions? Ok, alors on va passer en revue. La première question, c'était... Comment se fait-il que des personnes religieuses... Plus forte raison, les étudiants de Yeshivot sont eux. Où est la protection de Dieu? C'est marqué Torah Magda Umatzla. Torah, elle protège et elle sauve. Alors où était leur Torah? Alors c'est clair. Il est marqué dans la Torah, il y a un verset clairement écrit. Lorsqu'il y a eu l'inauguration du sanctuaire dans le désert. Grand jour de fête. Quand Moshe Rabbeinu descend du mont Sinaï après 3 fois 40 jours, c'était Yom Kippour, où Dieu a pardonné le péché du veau d'or. Dieu a ordonné, il a dit, malgré le péché du veau d'or, je vais demeurer parmi vous, construisez-moi un sanctuaire. Pendant les 5 mois qu'il y a, 5 mois et 20 jours qu'il y a entre Yom Kippour et le premier du mois de Nissan, Bnei Israël construit le sanctuaire. Le premier du mois de Nissan, inauguration. Dieu va venir demeurer parmi nous. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, les deux fils de Aaron amènent une offrande, de l'encens, et descend un feu du ciel qui les dévore. Aaron, leur père, reste muet, et Moshe lui dit... C'est ce que Dieu a dit, Bikrovai Akadesh, je me sanctifie par mes proches. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce qui s'est passé là-bas dans le désert, mais je me sanctifie par les gens qui me sont proches. Ça veut dire. On ne connaît pas les raisons précises pour lesquelles un tel ou un tel meurt de façon terrible, horrible, comme on le voit hélas trop souvent. Personne au monde peut aller, a le droit de dire, voilà, c'est pour ci, c'est pour ça. On ne sait pas. Mais on sait en général des cadres généraux. On sait que Dieu a créé le monde avec l'attribut de rigueur. Il est écrit qu'avant que ce monde soit créé, il y a eu 26 autres mondes, 26 tentatives de création du monde qui ont échoué. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés avec l'attribut de rigueur, le din. Et ça ne tenait pas. Qu'a fait Dieu la 27e fois? Il a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de rigueur. Deux questions se posent. Ça veut dire quoi associer? Et deuxième question, qui est quand même la première tellement importante, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. 26 fois ça a raté, bon, à ce coup-là, 27 fois j'ai fait une autre recette. C'est pas un cuistot. Alors, il y a beaucoup de réponses à cette question-là. Là, on va donner une réponse simple, celle que je veux utiliser maintenant pour expliquer ce que je veux dire. Dieu veut créer le monde 26 fois avec le din, la rigueur céleste, pour nous montrer que c'est ça son but. Toujours, il arrive dans la Torah qu'il y a une sorte de tentative, et après, hop, on fait autrement. Même des fois, tu vas demander à un tzaddik une question, il te répond. Quand tu reviens, bon, il te répond autrement. La première réponse est la vraie bonne, c'est celle qui était idéale. Bon, pratiquement, on voit qu'on ne peut pas y arriver, alors donc une autre alternative. Mais la première est la bonne réponse, qui n'est pas toujours réalisable, pratiquement. Alors, c'est, disons, ce qu'on aurait bien voulu que ce soit. Dieu a créé 26 mondes pour nous dire « Mon but est que ce monde soit basé sur la rigueur céleste. » Ça ne tient pas. C'est quoi la rigueur céleste? Ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Aucune. Aucune. Comment un moustique que nous sommes par rapport... Un moustique, je suis gentil, d'accord. Un niet, rien. Ou allô, dans toutes les langues. Par rapport à l'infini de Dieu, rien. Donc, Dieu t'ordonne. Dieu te parle. Dieu t'ordonne, fais ça. Et toi, tu ne fais pas. Il y a de quoi... Tous les anges sont abasourdis. Les anges, ils sont... Ils ne bougent pas d'un milliard de millimètres de ce que Dieu leur ordonne. Et c'est des anges énormes, d'une sainteté extraordinaire, plusieurs fois les galaxies. On peut parler de façon imagée. Et toi, petit moustique de rien, Dieu t'ordonne, tu dis non. Ça, c'est la rigueur céleste. Hatsouf, insolent. Terminé. Ce que les anges ont dit à Dieu, ce que Dieu a voulu créer l'être humain, ils ont dit Maïnosh, quel est l'homme que tu t'en rappelles, tu t'en parles seulement. Eh oui, bon, ils vont faire des péchés, c'est pas tout ce qu'il te faut. La rigueur céleste ne permet pas d'erreur. Aucune. Et c'est juste. C'est la justice. Pas la justice. Comment tu dis à Dieu non? J'ai pas envie. Je suis fatigué. Ça me saoule. Demain. Ouais, on verra. Je vais réfléchir. Dieu t'ordonne, tu dis, je vais réfléchir. C'est la rigueur céleste. Ça ne pouvait pas tenir le coup. 26 tentatives de création du monde et ça a échoué. Alors, Dieu a associé l'attribut de miséricorde. Associé. C'est pas qu'il a dit maintenant, ok, alors je crée un monde de miséricorde. Absolument pas. Je crée un monde de rigueur. Mais j'associe la miséricorde. Ça veut dire que c'est pas la rigueur dans toute sa rigueur, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire, c'est pas que tu as droit à l'erreur. Mais étant donné que tu feras des erreurs, parce que tu es un être humain avec un yetzer hara, avec un mauvais penchant, tu n'auras pas une conséquence qui est la disparition totale, immédiate. J'ai dit deux points. Total, tu n'as pas droit à l'erreur, tu disparais. Deux, immédiatement, ce ne sera pas total. Il y aura des conséquences négatives de ton acte. Elles ne seront pas immédiates. Elles seront plus tard. Pourquoi ? Dieu te laisse maintenant la chance, l'occasion, la possibilité de faire tchouva. Tchouva, c'est venir. C'est le troisième grand cadeau que Dieu nous fait. Bien que tu aies mal agi, Dieu va considérer le regret sincère de l'acte mauvais que tu as fait et la décision absolument absolue, d'accord, totale, hyper sincère, de plus jamais refaire, que le péché disparaît. Tu l'as fait, quelqu'un l'a tué, quelqu'un a fait un adultère, il a, je sais pas moi, coupé la jambe de son prochain. Il regrette, sincèrement. Et il dit, je ne ferai plus jamais ça. C'est certain. Hop ! Comme s'il n'a jamais fait. C'est un grand cadeau, c'est pas une justice totale. C'est une justice, parce qu'on ne te laisse pas sans rien. Allez, t'es gentil, ferme les yeux. Une deuxième fois, je ferme les yeux. 20 000 fois, il coupe les jambes à tout le monde. On est gentil, on ferme les yeux. Non, ça c'est miséricorde totale, il n'y a pas ça. Il y a justice. Au lieu qu'elle soit totale, donc mort et immédiate, on te laisse le temps de faire tchouva et on accepte le regret sincère, avec une promesse de plus jamais refaire, sincère aussi, comme si tu ne l'as pas fait. Ça, ce sont les cadeaux de la miséricorde divine. Pourquoi je raconte tout cela ? Pour bien comprendre que dans la conduite que Dieu a du monde, il y a deux attributs. Il y en a plusieurs, mais les attributs majeurs, c'est la gauche et la droite. Comme il y a chez nous la gauche et la droite, la gauche c'est la rigueur, la droite c'est la miséricorde. Et Dieu agit dans son monde en fonction de ses voies de conduite. C'est comme ça qu'est la nature du monde, ne peut pas être autrement. Ça veut dire que la rigueur céleste, elle, prend tous les péchés du peuple d'Israël et va dire à Dieu, comment tu laisses ce peuple vivre ? Il ne mérite pas. S'il n'y a pas de péché, théoriquement parce qu'il y en a, si théoriquement il n'y avait pas de péché, Dieu amenait un grand cadeau au peuple d'Israël. Actuellement, les grands rabbins parlent beaucoup, un peu plus de Mashiach. C'est très proche, d'ailleurs il ne faut pas être un grand sage pour le voir, le monde il est en super ébullition. Les choses bougent, elles vont bouger, c'est clair. Et elles bougent dans le sens des écrits de la Torah. C'est un grand cadeau. La tribu de rigueur dit, mais pourquoi on ne donne pas un grand cadeau à quelqu'un gratuitement? Si la tribu de miséricorde, oui, on aime tout le monde, pas de problème. On ne regarde pas grand, petit, bien, sympa, pas sympa. On donne tout. Rigueur dit, non, pourquoi? Pourquoi tu donnes? Pourquoi? Pourquoi Israël? Pourquoi pas les autres? Donc la tribu de rigueur, il est là pour dire non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils disent oui? La rigueur se dévoile dans le monde par le mal, par la souffrance. Quand tu souffres, ça l'apaise. Quelqu'un, je ne sais pas moi, il a mal garé sa voiture, il paye une amende. Bon, il paye son amende, on l'aime bien de nouveau. Quelqu'un a fait un acte répréhensible, grave, il est jugé, il purge sa peine, il la purge bien comme il faut. La justice, une fois que tu as purgé ta peine, on ne peut plus rien dire. La souffrance, l'épreuve, la peine, ce sont hélas les choses, hélas, bon, c'est comme ça, qui apaisent la tribu de rigueur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bien en terre d'Israël. Extraordinaire, il n'y a presque jamais eu autant de Torah. Autant de Torah dans des conditions très difficiles, dernièrement, où l'État fait tout pour qu'il n'y ait plus de Torah, coupe tous les robinets. Mais aussi, hélas, beaucoup de mal. Personne ne peut savoir quelles sont les raisons qui ont fait que ces trois pauvres jeunes gens ont été tués ainsi. Personne, comme j'ai dit au début du cours, personne ne connaît les raisons. Il y a les quatre généraux, comme je dis, la tribu de rigueur. Dieu veut donner un grand cadeau à Israël. Mashiach, peut-être d'être sauvé maintenant de 150 000 soldats de Al-Qaïda qui sont comme des fous qui veulent conquérir la Jordanie, de Jordanie à Jérusalem, c'est très, très rapide. Peut-être que, je ne sais pas moi, un tremblement de terre qui doit, et Dieu maintenant il annule le mauvais décret. J'ignore, je ne suis pas dans les comptes de Dieu. Mais c'est clair qu'il y avait des malheurs que la tribu de rigueur exigeait qu'il arrive des malheurs au peuple d'Israël. Pourquoi, comme je dis, et les péchés d'Israël et les cadeaux que Dieu veut donner au peuple d'Israël. La rigueur dit non. On apaise. Alors comment on peut apaiser? On va prendre. Qu'est-ce que tu veux, la rigueur? C'est le procureur de la République, d'accord. Je veux 10 000 morts. Une guerre, voilà. Hezbollah envoie ses missiles, ils ont combien? 100 000 missiles, 150 000 missiles, une pour chaque bâtiment qui est en Israël, en gros. Une petite guerre, comme ça, 3 semaines, 150 000 missiles. Là, je me calme. Je dirai plus rien. Et la tribu de miséricorde dit, mais Hachem, c'est ton peuple. Regarde comme il prie, regarde comme il tue la Torah, dans quelles conditions de pauvreté, malgré tout, il suit la Torah, ils envoient leurs enfants au Talmud Torah. Regarde le chesed qu'il y a dans le peuple d'Israël, regarde la tchouva qu'il y a dans Israël. Il y a un débat dans le ciel. La rigueur dit 10 000, pas moins. Alors, Hachem va atténuer le coup. Dire la rigueur, dégage, impossible. Le monde est créé par la rigueur. Quand Machar viendra, il n'y aura plus de rigueur. Époque messianique, il n'y aura plus le mal. Mais jusqu'à ce qu'il arrive, la rigueur va demander tout. Et Machar veut arriver dans ces conditions. Il ne veut pas arriver dans des conditions de miséricorde. Parce que là, ce n'est pas dû. L'époque messianique, tous les cadeaux qu'on recevra à cette époque, c'est très proche. Dieu veut qu'on le reçoive en tant que dû. C'est-à-dire, bien que la rigueur céleste a demandé une rigueur totale, une justice totale, nous on a accepté et malgré tout, on a accepté et on a obtenu. Pas en cadeau. C'est pour ça qu'il est écrit qu'avant que ma chair vienne, il y aura beaucoup de douleur d'enfantement du Messie. Les douleurs d'enfantement du Messie, alors Fetzraïm m'a dit, elles ont commencé le jour de Tisha B'Av de l'année Tirad, tu trembleras. Tirad, en juif, c'était l'année 1914. Le jour a commencé la Première Guerre mondiale. Pire guerre de l'histoire, première. Après seconde, qui était la pire après la première. Tire une troisième, on ne sait pas. Il explique qu'il y aura trois grandes guerres. On ne sait pas si c'est ça, si quoi. Les grands commentateurs ont dit que c'est une guerre spirituelle, celle entre le mal et le bien ici en terre d'Israël, entre le monde de la Torah, le monde des émancipés, les mouvements, toutes sortes de mouvements tordus, juifs, qui veulent tout faire pour que les Juifs deviennent goy. D'accord? Mouvement religieux, juif. On verra si ce n'est que spirituel ou aussi physique. Pardon? Non, une fois que Machar arrive, c'est fini. On ne pourra plus pêcher à l'époque. Alors on ne pourra plus pêcher à l'époque. Il n'y aura pas de mal. J'ai marqué que le seul sacrifice qu'il y aura, au début il y aura. J'ai expliqué dans un cours dernièrement qu'il y a une progression des choses. Il est écrit que le seul sacrifice qu'il y aura à l'époque messianique, donc à un certain moment, ce serait le sacrifice au-delà du remerciement à Dieu. Il n'y aura plus de sacrifice expiatoire pour des péchés commis. On ne pourra plus pêcher. Il n'y aura plus de mal. Au début aussi, sans faire exprès, on pourra pécher, sans faire exprès. C'est pas le mal, c'est un petit reste, un manque de bien. Et rapidement, ça va disparaître et il n'y aura que le bien, bien, bien.
Ah, la rigueur a gagné, en fait, au final.
La rigueur a gagné, mais nous, on a gagné. Parce que malgré qu'elle a voulu notre fin, on a accepté le deal quelque part et on sort vivant. Il y a la Shoah qui joue beaucoup là-dedans, c'est clair. Je ne vais pas rentrer dans le bal Shoah qui est très dur, mais en deux mots. On ne connaît pas les raisons d'une chose comme la Shoah. Ou comme la dispersion de ces trois garçons. On sait qu'il y a des raisons qui ont fait que plusieurs, on ne les connaît pas. 10, 20, 30, 100, 1000, 2000. Dans ce cadre de raisons, il y a aussi la raison que je dis maintenant, la rigueur qui ne veut pas donner les cadeaux auxquels le peuple d'Israël a droit. On ne peut pas dire la Shoah a lieu pour ça. On ne sait pas pourquoi. Mais il est clair qu'on voit que parmi les raisons qui ont fait la Shoah qu'on ne connaît pas, il y a aussi des choses que je vois. Avant la Shoah, il y avait une dépression totale au niveau spirituel. Après la Shoah, il y a un grand retour.
Pourquoi on peut dire que c'est ça?
Parce que tu ne peux pas aller dire, moi qui suis le bon Dieu, je vous dis pourquoi il y a eu 6 millions de juifs tués dans des camps, dans des situations aussi atroces.
Je vous l'ai dit, si vous n'écoutez pas, mais je n'ai pas envie de dire que la Shoah, c'est ça.
Il y a une partie de ça, oui. Mais combien, tu sais? Moi, je ne sais pas.
Non,
je ne sais
pas, mais
nous
a donné.
Je dis. Réduire à ça, on ne sait pas. Preuve en est. Je dis maintenant, il y a d'autres raisons. Par exemple, que Dieu va amener Machia. C'est parler maintenant des douleurs d'enfantement du Messie. un grand cadeau, aussi grand que la fin du monde en bien, la fin du mal, ne peut pas venir sans que la rigueur dise non. Pourquoi ?
C'est
que la rigueur. C'est clair. Tout ce que je dis, ce n'est que la rigueur. Maintenant, pourquoi la rigueur, elle vient ? Une fois, elle vient à cause des péchés. Et moi, pourquoi il aurait ce cadeau ? Quel cadeau ? La tchouva, le Mashiach, beaucoup de gens, retour en terre d'Israël.
Elle peut devenir simple sans péché, la rigueur, elle peut devenir simple comme ça. C'est forcément...
Non, j'expliquais pas que les péchés. Elle peut dire maintenant, pourquoi tu donnes un cadeau ? C'est pas juste. C'est juste.
C'est là, alors donne pas
Dieu crée un homme. Il est bien, il est gentil, il fait pas de péché. Tout à coup, il dit, ok, maintenant, tous ceux qui ne me reconnaissent pas dans le monde, je l'élimine. Zip ! Et j'amène un grand cadeau au peuple d'Israël, Mashiach et la Géoula. La rigueur dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? En vertu de quoi ? Bon, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? La justice dit, ils font un mérite. Bon, s'il y a des mérites, ça va, des gros mérites. S'il n'y a pas de mérite. Alors on crée un mérite. Comment on crée un mérite ? Avec de la peine. J'explique pas la Shoah. Je viens de dire maintenant une raison parmi mille. On n'a pas le droit d'aller expliquer. On peut dire, il se peut que parmi les raisons que nous connaissons, il y a aussi ces raisons qui ont joué que. Il se peut que. Non. J'ai même si tout était bon, il se peut maintenant, on donne un grand cadeau. Maintenant, il se peut aussi maintenant qu'il y a aussi des réincarnations, réparation d'incarnation. Il y a beaucoup de raisons aussi. Je te les donne dedans en vrac comme ça. C'est marqué qu'il n'y aura pas un seul malheur du peuple d'Israël dans lequel il n'y a pas la faute du veau d'or aussi qui est associée. Alors quoi ? On est au veau d'or ? Où est le rapport ? Il y a le tikkun du premier homme, du péché originel. Il y a le Gilgoulim, toutes les réincarnations des gens qui ont fait des choses, qui maintenant la Goula doit venir, ils doivent réparer. On ne sait pas. Dieu laisse le temps de faire tchouva. Maintenant, quand il veut amener la Géoula, okay. Comme à la fin de la vie, les gens souffrent. Pourquoi ils souffrent à la fin de la vie ? Parce qu'ils sont vieux. Parce que Dieu le laisse toute la vie pour faire tchouva. Mon cher ami, maintenant t'arrives, c'est la fin, tu ne bouges pas. Alors au moins je te fais un peu souffrir pour que tu arrives un peu plus propre. Olamaba, c'est la tribu de rigueur qui dit maintenant, s'il va recevoir Olamaba, il ne peut pas recevoir comme ça, il faut payer. Et Dieu veut qu'il paye pour qu'il ait droit à ce cadeau. Bien sûr qu'il est bon, il est créé par Dieu, mais il est rigoureux. C'est-à-dire, t'as droit, mais faut payer. Bien sûr qu'il est bon. Pourquoi Dieu voulait ? Parce qu'il veut pas qu'on... Si on reçoit gratuitement, c'est pas à nous. Qu'on puisse dire à Dieu, je mérite, j'ai payé. Demain, les peuples vont venir. Et dire, pourquoi Mashiach, que le peuple d'Israël ? Mon cher ami, t'as vécu une Shoah ? T'as vécu 3500 ans de ce que nous avons souffert pour Dieu ? De quel droit tu parles ? Dégage. J'ai raison. Raison, c'est aussi justice, c'est aussi rigueur. Du point de vue de la justice, il ne peut plus rien dire.
Vous avez commencé
par dire que... Attends, je suis en train d'expliquer, excuse-moi. Alors maintenant, on est avec, dans le débat, dans le ciel. La tribu de rigueur dit 10 000 morts. La miséricorde dit non, il y a des biens, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il va faire une chose qui est le seul moyen de s'en sortir à bon compte. Il prend 3 jeunes gens qui auraient pu mourir en accident de voiture ou aller à la mer se noyer bêtement. Et personne n'aurait parlé, rien du tout. De quoi on aurait parlé ce soir même ? Ils ont été kidnappés jeudi soir. On l'a su vendredi après-midi. À ce moment, commençait la Gay Pride internationale à Tel Aviv avec 150 000 personnes, on m'a dit. Le journal de 20 heures de Shabbat soir, 80% des Juifs en Israël ne font pas Shabbat. Le jour où on regarde les nouvelles, le grand journal de nouvelles à la télévision, c'est vendredi soir. Tout le monde regarde. C'est quoi le scoop ? De ce soir, la Gay Pride. C'est quoi le but de la Gay Pride ? C'est faire de la pub. Chas et Shalom, qu'on ne me comprenne pas bien, je ne veux pas dire maintenant que les 3 sont morts à cause de la Gay Pride. Je veux dire que parmi les 1000 raisons que je viens d'expliquer qui ont fait cela, ça, Dieu a fait aussi qu'il n'y aura pas de pub pour la Gay Pride. Et hélas, le vendredi soir, au journal, on n'a pas parlé de la Gay Pride, parce que c'était indécent de parler d'une Gay Pride alors que 3 jeunes ont été kidnappés. Ils n'ont pas eu leur pub. Ça, c'est juste en passant. En parenthèse.
Ça ne peut pas être à cause des chibonim que
je suis en train d'expliquer maintenant le à cause.
Mais c'est pas possible que c'est des tirs que j'ai dit. Il ne peut pas être jugé sur quoi ? Sur un cheveu, il ne peut pas être jugé.
J'ai dit qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait que, parmi les raisons que je cite, j'ai dit 2 raisons. Il y en a 1000 que j'ignore. 2 que je peux dire en cas général. Le fait que Dieu vous donne un cadeau et la rigueur s'opposent, et les péchés d'Israël. Et le péché en Israël, qui ? J'ignore. Tu sais, toi, juger qui, quoi ? Si c'est un homo de Gay Pride ou un religieux barbu qui regarde des trucs Internet interdits sur iPhone.
Sur quoi il est jugé, cet homo hein? Gay Pride ? Sur quoi il est jugé ?
Je ne sais pas, je ne suis pas le bon Dieu.
C'est Tino Change Boy, il y a comme ça.
Tu juges comme ça, ça, ton droit. Moi, je ne suis pas le juge. Je ne sais pas, c'est mon Dieu qui juge. J'ai dit péché, je ne sais pas d'où ça vient. Tu peux aller dire, c'est lui à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui. J'ai dit, un point où on a vu, je pense, un peu la providence divine, qu'ils n'ont pas eu droit en Terre Sainte à la pub qu'ils voulaient avoir. C'est tout. Hélas, par cet événement horrible. Tragique. Alors, pour finir, Dieu dit, ok, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre trois bons garçons, des tzadikim. Et la perte d'un tzadik, elle équivaut à la perte de 100 ou 1000 non-tzadikim. Surtout s'ils sont jeunes, sans péché. Et le réveil que ça provoquait, de prière, d'union entre les juifs, de tchouva, qui n'a pas prié ? Qui n'a pas pleuré ? Cette union du peuple d'Israël, elle fait tellement d'effet dans le ciel que la tribu de rigueur, tu la fermes. Tu veux 10 000 morts, tu as eu des morts. Trois. Trois qui valent les 10 000. Comment dire ça ? Pas la fédération. L'action d'union que ça provoquait dans le peuple d'Israël, les misot, le réveil, le rapport, le rapprochement à Dieu. Rabbi Chaim Kanievski a dit, ils ont un très grand mérite. D'abord, il est clair que quand quelqu'un doit mourir, s'il a la chance de mourir à Kiddush Hashem, sanctification du nom de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'il puisse y avoir. Mais eux, non seulement ils sont morts en sanctification du nom de Dieu, mais ce que ça provoquait dans Am Israël, extraordinaire, ils ont un très 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 grand mérite. On ne demande pas ce mérite, ni d'être le parent de ce mérite. Si déjà ça arrive, quelqu'un devait mourir, on ne sait pas. Peut-être qu'il devait mourir le lendemain bêtement en allant à la mer et noyé, comme ça arrive là très souvent, il y a au moins une dizaine de bahourim, de jeunes gens qui meurent chaque année noyés à la mer. Alors Dieu a fait en sorte que ça se passe comme ça. Pour amoindrir l'accusation et quand même lui donner ce qu'elle veut pour qu'elle se taise.
Comment Rav Kanievski avec Golim alors ?
Alors, deuxième question. Comment, juste l'heure, parce que...
Mon cas.
Alors, Rav Kanievski, de deux choses l'une. Ou il savait qu'ils étaient morts, ou il ne savait pas. Ah, il a Roi HaKodesh, comment ça se peut qu'il ne va pas savoir ? On voit un exemple dans la Torah édifiant. D'un prophète, c'est le plus grand des prophètes. Après Moshe Rabbeinu, qui c'était ? Elisha. Elisha était l'élève de Eliyahu HaNavi. Quand il accompagne Eliyahu HaNavi qui va être pris par un chariot de feu dans le ciel, il demande à Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi dit, dis-moi ce que tu veux. Il dit, donne-moi un pouvoir de prophétie double du tien. Tu m'as demandé, c'est très dur, comme ça le dit là-haut. Si tu me vois partir dans le ciel, tu l'auras. Sinon, non. Elisha a vu comment un cheval, une carrosse de feu est venue du ciel et a pris Eliyahu HaNavi dans le ciel. Donc Elisha avait un pouvoir double de prophétie de Eliyahu HaNavi. Super énorme. Il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Il a béni qu'elle aura un enfant durant cette année, la Shunamite. Elle avait un enfant. Quelques années plus tard, l'enfant il a 2-3 ans, il est avec son père dans les champs, il a mal à la tête, le père l'amène chez sa mère, rentre dans les champs, la mère s'occupe de lui, l'après-midi il meurt. Elle le met dans la chambre dans laquelle elle reçoit toujours le prophète, il passait chez elle une fois par année. Elle court chez le prophète. Elle lui embrasser les pieds. Son serviteur, ça veut dire du prophète, la reprend en arrière, qui te permet de toucher le prophète. Laisse-la. Dieu m'a caché. Je vois qu'elle est fâchée, elle est triste. Dieu m'a caché ce qui s'est passé. Il ne m'a pas dit que son fils est mort. Elle connaît cette femme, c'est toi qui as même promis qu'elle aura un enfant. Elle vient, tu vois sur sa tête que l'enfant, il est mort. Il ne savait pas. Il y a Roi HaKodesh, c'est pas Roi HaKodesh, Rav Kanievski avec tout le kavod, par rapport à Elisha, c'est fois mille en moins, c'est pas un prophète, il y a Roi HaKodesh, on parle d'un des plus grands prophètes. Dieu peut décider de cacher à quelqu'un ce qu'il veut décider de cacher, il a plein pouvoir, donc il peut cacher à quelqu'un, donc il se peut que Dieu a caché, tout à fait possible. Autre solution, non, le Rav savait, Ok, il avait le droit de parler. S'il parle et dit, ils sont morts. Deux semaines de prière, de rapprochement, d'union, ça part en cacahuète. On va dire, Rav Chaminski, il vient après, après 120 ans, il croit aller au paradis, mon cher ami, t'as vu ce que t'as raté? On devait avoir 3 morts, on devait avoir 10 000 morts, on voulait 3 morts. Par tout le grand évêque que ça aurait fait. À cause de toi, parce que t'as parlé, eh ben on a tout perdu, en enfer. T'as pas le droit de parler comme ça. C'est pas tout ce que les gens voient, les grands tzadikim, ils voient, ils ont pas le droit de toujours tout dire. C'est la deuxième question. Troisième, rappelons qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'était quoi? Les bombardements. Pourquoi il n'y a pas des représailles de l'armée israélienne à la façon arabe habituelle ou zigoutou, puis comme ça tout le monde reste tranquille? Parce qu'on ne se comporte pas comme eux, c'est tout. Et à cause des Français, des Juifs français pour leur sécurité. Quatrième question. C'était quoi?
C'est ce que les filles ont servi à quelque chose.
Est-ce que prière ont servi à quelque chose? Il n'y a aucune prière qui ne part pour rien. Si elle n'est pas partie pour ça, elle est partie pour autre chose. Et là, on l'a bien expliqué. Certains, quelqu'un est pris pour un. Ouais, il prie une personne, voilà. Elle est déjà morte. Il prie qu'elle revienne, qu'elle soit vivante, qu'elle guérisse, tout ce que tu veux. Elle est déjà morte, il n'est pas au courant. Aucune prière ne sert à rien. Elle est prise, elle va autre part. À quoi? Où? Elle va. Sur quoi? Je ne sais pas. Non, pas sur n'importe quoi. Bon Dieu, il fait comme il faut, il prend la prière exactement là, et en fonction de sa valeur, il va faire que ça va, entre autres, calmer aussi la tribu de rigueur. Bat Hashem, qu'il n'y ait plus de malheur dans le peuple d'Israël, qu'il nous emmène ma chère très bientôt. C'est très proche. Baruch Adonai, l'homme, amen.